Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la radio de Vues et Voix.
Le canal M.
Le canal M, en ce 6 juillet, c'est le début de l'été des chansons, n'est-ce pas?
L'été des chansons?
Oui, c'est l'été des chansons.
C'est bien beau, ça.
C'est le bel été.
Vous avez pris ça où, ce terme, l'été des chansons?
Ça vient de très loin, dans ma mémoire. C'est ça, j'ai épuisé. C'est Serge Hamelin que vous venez d'entendre. Bonjour, Serge.
Bonjour, et c'est Roger Roy que vous entendez. Ben, oui. Pour moi, là, c'est l'autre. Là.
Et c'est Mathieu Tessier qui est en régie.
Oui, lui, on n'entend
pas. Non, qui va nous accompagner, nous diriger, nous guider pendant l'heure qui s'en vient.
Oui.
Et nous avons, comme à l'accoutumée, des sujets très intéressants à vous proposer.
Très intéressants, oui. Parce qu'on voit des gens qui vendent des itinéraires. Eh bien, on va aller au pays des itinéraires ce matin.
Pas des itinérants.
Non, des itinéraires, et vous allez voir comment, qu'est-ce qui se passe avec l'itinéraire.
Bon, allons-y. Moi, je vais vous amener sur la route verte.
Ouais?
Oui, la route verte qui est à la croisée des chemins.
Okay.
Et je vais aussi vous donner des conseils, mais c'est pas moi, là, mais c'est dans la Reader's Digest, c'est des conseils qu'on vous donne pour garder un cerveau en santé. Ça va pas très loin, sauf que ce sont des choses un peu sensées qu'on peut entendre, qu'on peut peut-être appliquer.
OK, c'est beau. Et puis moi, ben, je vais vous parler de l'été avec les hot dogs. Qui est un échec cuisant, paraît-il, dans la revue Protégez-vous. Hein, on a fait des tests de saucisses.
Stimé ou non?
Et puis après, je vais vous parler des sorbetières. Non, de la saucisse. Je ne parle pas du pain, là. Je parle de la saucisse.
Alors, j'y vais tout de suite avec un premier texte sérieux, celui-là. Ça s'appelle « Acheter en ligne la bonne affaire ».
Ouais, ben ça peut.
C'est Marc-André Sabourin qui nous donne des éléments de réponse dans l'actualité du 1er juin.
Je suis très curieux.
Oui, il commence par ceci.
Ouais.
Fermez les yeux un instant et mettez-vous dans la peau d'un bricoleur amateur qui désire acheter une perceuse sans fil bien précise,
voilà.
Un machin jaune et noir en forme de pistolet qui sert à faire des trous. En bon consommateur moderne, vous commencez votre magasinage sur le web. Vous visitez d'abord les sites des grands détaillants québécois et canadiens. Renault Dépôt et Rona offrent l'outil à 229 $, taxes incluses, mais impossible de l'acheter en ligne. Peut-être pourriez-vous trouver mieux ailleurs.
Peut-être.
Vous googlez le numéro du modèle et aboutissez sur Amazon.com.
Oui.
La perceuse y est offerte à 84 $ américains. Même avec les taux de change, les frais de transport et les droits de douane, le total n'atteint que 140 $, alors que vous auriez payé 229 $ plus, non, taxes incluses, 229 $ chez Rona. Alors, fier de votre coup, vous passez la commande. Le colis sera livré dans quelques jours à votre porte. Notre bricoleur amateur, vous pouvez sortir de sa peau maintenant, là, a économisé 89 $.
Oui.
Bravo! Mais l'économie du Québec, elle, vient de perdre 229 $.
Non.
Oui. L'époque où un Québécois craignait d'entrer son numéro de carte de crédit sur le web est révolue. Pour certains. L'an dernier, un adulte sur deux a utilisé un clavier pour acheter un peu de tout. Vêtements, électronique, disques, livres, voyages, cosmétiques. Les entreprises québécoises ne sont toutefois pas au rendez-vous. Selon l'Institut de la statistique du Québec, à peine 12,8% des entreprises branchées prennent des commandes sur Internet. Notre bricoleur amateur se serait-il retrouvé sur Amazon s'il avait pu acheter sa perceuse sur le site de Renault Dépôt? On n'a pas consacré beaucoup d'efforts au commerce électronique, admet la vice-présidente principale et directrice générale de Renault Dépôt, Chantal Glennison. Mais un client voudrait-il acheter de la céramique en ligne? Bonne question. La priorité de la chaîne est d'afficher l'ensemble de son catalogue sur son site. On travaillera ensuite sur le système d'achat. Ça demande du temps faire tout ça, dit-elle, refusant d'y voir un retard. Bien des commerçants craignent le furtage en magasin où le client compare les produits sur place puis achète en ligne au meilleur prix. En réalité, c'est l'inverse. 90% des gens regardent en ligne avant d'acheter en magasin. Ça, c'est selon Jean-Paul Chauvet, qui est directeur financier de l'entreprise montréalaise Lightspeed, spécialisée en commerce. Un phénomène que les anglophones ont baptisé « web brooming ». Web broom, un balai, là. Bon. Passer le balai sur le web. Pour aider les boutiques à en profiter, Lightspeed offre une solution clé en main pour gérer en un seul endroit les stocks, les ventes en magasin, le site web et les commandes en ligne. Plus de 23 000 détaillants l'utilisent dans le monde, mais peu se trouvent au Québec. Le journaliste, je ne sais pas si je l'ai identifié, le Marc-André Sabourin, donne ensuite un exemple de ce qu'un commerçant peut réaliser sur Internet. Il s'est tourné vers le cas d'un minuscule magasin de vêtements féminins situé au Carrefour Saint-Georges en Beauce.
Oh là là!
En 2010, Mélanie Roy ne pensait pas au web. C'était une chose qui, après la gestion quotidienne de la boutique, semblait demander trop de temps et d'efforts par rapport aux bénéfices qui en découleraient. Alors, un jour d'avril, elle a tout de même créé une page Facebook, la première présence numérique de son entreprise, où elle a publié les photos de ses nouveautés accompagnées de prix. La page Facebook de Vicky a rapidement dépassé les 1000 j'aime et les commandes se sont multipliées. 5 ans plus tard, la boutique Vicky de Mélanie Roy a plus de 10 000 j'aime sur Facebook. Hein, ça fonctionne. Elle a un tout petit magasin avec beaucoup de clientèle.
Ah, c'est tellement.
Autre exemple de succès, c'est le cas de cartouches certifiées. Ce sont des cartouches d'imprimantes. Cette entreprise est née sur le web en 2006, mais sans site web. Mathieu Laroche et son associé en affaires, Jonathan Quévillon, alors tous deux étudiants à l'université, avaient racheté un lot de cartouches à petit prix. Pour les revendre, ils envoyaient des messages en masse à des adresses courrielles d'entreprises grappillées sur des sites de chambres de commerce. On envoyait notre infolettre à 40 000 personnes et on avait peut-être 30, 40 réponses, se souvient Mathieu. Aujourd'hui, leur approche s'est professionnalisée. Ils ont toujours leur infolettre, mais aussi un site web transactionnel et un compte de vendeur sur Amazon et eBay. Au lieu de laisser nos produits dormir sur nos étagères, on les met sur toutes les plateformes pour rejoindre le plus grand bassin de clients. Une stratégie payante, les ventes sur Amazon et eBay représentent près du tiers du chiffre d'affaires de cartouches certifiées. L'entreprise, surtout connue au Québec, poursuit maintenant des rêves de grandeur. Au cours des prochains mois, elle passera à l'offensive pour atteindre les marchés américains et européens en déployant un nouveau site web, un investissement de 250 000 $ qui a forcé les deux entrepreneurs à revoir leur logistique de A à Z. Si on s'ouvre au monde, il faut être capable de continuer à livrer rapidement.
Oui.
Et c'est là la clé du succès. Un magasin, par exemple, comme Tristan, qui a des endroits un peu partout, des pignons sur rue un peu partout au Canada, peut facilement livrer sa marchandise. Mais on peut aussi s'adresser à Poste Canada, qui s'occupe des clients, et même Amazon peut le faire pour vous. Alors, magasiner sur Internet, est-ce que c'est une bonne affaire? Par Marc-André Sabourin, dans l'actualité du 1er juin.
Bonjour, alors, dans l'itinéraire, cette revue que l'on connaît plus ou moins, que l'on a probablement vue à la sortie d'un métro, accompagnée d'un monsieur ou d'une madame derrière l'itinéraire, on va l'apprivoiser ce matin. Il y a même une madame qui l'a apprivoisée pour nous, elle va nous en faire part, elle s'appelle Geneviève Bois-Lapointe. Les chemins sont nombreux pour parvenir à trouver sa voie. La carte routière, des trucs et embûches est grande. Mais grâce à nos intervenants et pères aidants, on apprend à s'orienter en dehors du néant. C'est beau, hein? Alors, Geneviève parle. J'ai découvert l'itinéraire à l'hiver 2014. Je venais de déménager seul dans un petit 1,5. J'étais sans réseau social, sans travail et sans repère. Mais j'étais bien déterminé à me construire une vie. J'ai frappé à la porte de ce groupe communautaire et on m'a accueilli à bras ouverts. Alors, si vous vous sentez seul, démuni, on va frapper à la porte de ce groupe communautaire. OK? Et je me suis tout de suite senti à ma place et du coup, je suis devenu camelot, c'est-à-dire une personne qui travaille à la création ou à la vente du magazine. Au début, Je ressentais un certain malaise à l'idée que les passants puissent me percevoir comme une itinérante. J'avais peur de ne pas avoir l'air suffisamment démuni pour qu'ils comprennent que j'avais besoin d'aide. Par la suite, j'ai réalisé que l'itinéraire était grandement plus diversifié que ce que la majorité des gens peuvent imaginer. La souffrance et l'appel à l'aide peuvent prendre plusieurs visages, dont le mien. Alors, je me suis donné le rôle de briser les préjugés en affirmant mon existence en toute authenticité. Quelques semaines plus tard, le chef du développement social, Sean Bourdage, m'offrait de travailler à la distribution du magazine au Camelot. J'avais prouvé qu'on pouvait me faire confiance et j'en ressentais une certaine fierté. Et lors d'une réunion de Camelot, qui avait pour objectif d'élire en représentant, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai foncé dans le tas. J'ai présenté ma candidature en faisant un discours devant une cinquantaine de personnes. J'avais le cœur qui battait fort car je faisais face à ma plus grande peur, parler en public.
Dis donc, c'est sérieux?
Ouais. Heureusement, j'en ai gardé le souvenir d'une expérience positive malgré que je n'ai pas été élu. De toute façon, mon rival était Gabriel Bissonnette, bien connu, hein? Un Camelot présent depuis 20 ans. Oh, il était donc tout à fait normal qu'on lui confie ce rôle. Un jour, l'ancien directeur général, Serge Larrault, encore plus connu, m'a approché en me demandant si je serais intéressé à siéger au conseil d'administration. Un poste s'était ouvert parce que Yvon Massicotte, ancien Camelot, devenait employé comme agent de soutien en développement communautaire, une première à l'itinéraire. Il est devenu un modèle pour les autres. Et après 7 ans dans la vente du magazine, il a eu l'opportunité de passer de Camelot à employé au sein de l'organisation. Je m'étais également porté candidate à ce poste, mais il était évident que c'était fait pour lui. Et lors de l'Assemblée générale annuelle, j'ai confronté ma plus grande peur à nouveau. J'ai fait un discours électoral devant une centaine de membres afin de les convaincre que j'étais la personne idéale pour le poste d'administratrice au sein du conseil d'administration. Et du coup, j'ai été élue pour un mandat d'un an. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'accomplir quelque chose de sérieux. Et c'était pour moi une opportunité d'apprentissage grandiose, mais j'étais un peu inquiète de ne pas être capable de remplir mes responsabilités et engagements par manque de connaissances. Et c'est vrai que c'est énormément d'informations intégrées, surtout le contenu du guide des règlements généraux de la corporation. Mais je suis curieuse de comprendre l'ensemble de la structure de l'organisation afin de pouvoir m'y accomplir pleinement. Vers le 100% Camelot. À l'itinéraire, j'ai participé à plusieurs activités en équipe. Élaborer des stratégies de visibilité, bâtir des projets publicitaires, des vidéos et des actions choc avec le comité marketing. Et c'est un processus très intéressant de partir d'une idée, puis de fusionner celle des autres pour en arriver à une action commune où chacun exerce son rôle avec le meilleur de ses compétences. Et j'ai également été coordonnatrice d'une équipe de 5 personnes pour le comité de l'édition du magazine 100% fait par les Camelots. Et lorsque ce projet nous a été proposé, je trouvais l'idée très bonne, car nos membres exprimaient très fort leur ardent désir de pouvoir se manifester plus amplement dans l'écriture du magazine.
Oh, les Camelots,
oui. Cependant, c'était un projet de grande envergure où les risques d'échec étaient clairement présents, vu que c'était la première fois qu'on s'acquittait d'une si grande responsabilité, et puis ce fut un succès. J'ai aimé l'expérience de faire un suivi avec chacun des membres de mon équipe et de m'assurer qu'ils remettent leur production écrite tout en respectant les lignes directrices qu'on s'était données pour les sujets. Mais le plus difficile était de réussir à amener mon équipe à respecter les échéanciers. Mm-hmm. Et à la date butoir, aucun de mes 5 camelots ne m'avait remis son travail.
Oh.
Heureusement, j'avais préparé mon coup. Je m'étais donné une marge de manœuvre pour des situations de ce genre. Donc, tout s'est bien passé et j'ai été capable de rendre le travail de mon équipe aux responsables de la production écrite dans les délais. Et ce fut une belle expérience professionnelle qui m'a permis de gagner en confiance car le moi d'il y a 1 an ou 2 aurait refusé cette opportunité à cause de mon manque d'estime et de mon anxiété, phobie sociale qui me paralysait. Lorsque j'étais au secondaire et au cégep et que les profs nous disaient qu'on allait faire des travaux d'équipe ou des communications orales, je partais en panique, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je figeais de l'extérieur parce que je vivais l'apocalypse dans mon intérieur et j'attendais que quelqu'un me trouve une solution pour m'intégrer aux autres ou bien je fuyais, je me sauvais. Et malgré mon intérêt et ma forte volonté de vouloir performer à travers mes études, je n'arrivais pas à déconditionner mes mécanismes de défense qui me mettaient des bâtons dans les roues entre mon moi et la carrière professionnelle que je voulais avoir.
C'est bon pour l'ego pas mal, hein?
Ah, ben écoutez, vous savez que c'est plein de monde, hein, qui panique de parler en public,
Oui, c'est
etc.
vrai.
Eh bien, elle a été chanceuse au pays des itinéraires. Elle a trouvé sa voie, et pas n'importe laquelle, la voie des autres. C'est beau. C'est écrit par Geneviève Bois-Lapointe dans l'itinéraire du mois de juin.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor, na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão da cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor.
C'était la plus québécoise des Brésiliennes, Bia.
Ah,
hein? Ça s'appelle Baijo, cette chanson.
C'était du portugais.
Oui, bien sûr. Maintenant, par le billet du Reader's Digest du mois de juillet, nous allons nous intéresser à des questions de santé.
Ah bon?
D'abord, des conseils pour garder son cerveau en bonne santé.
Ah ben ça m'intéresse.
Ouais, c'est Jasmine Miller qui en parle. Alors, le premier conseil, c'est de produire des neurones. C'est le secret pour améliorer le fonctionnement.
Et on peut produire des neurones?
Oui, ça a l'air à ça. Bien, évidemment, ça ne va pas très loin, là, parce que c'est écrit... il y a quelques conseils. Mais
allez-y.
L'auteur dit ceci. Un plus grand nombre de neurones signifie une meilleure capacité d'apprentissage et de mémorisation, affirme Max Sinader du Jawad... Mowafajian Center for Brain Health de Vancouver. Mais comment on y parvient?
Ouais.
Il s'agit de bien se reposer.
Ah, c'est ça.
C'est ça. Le jour, lorsque vous apprenez, vous créez des connexions synaptiques dans votre cerveau.
Oui.
La nuit, quand vous dormez, ce dernier passe en revue les événements de la journée, aidant les neurones à se connecter et fonctionner ensemble.
Ah.
Merci. Ne négligez pas, par ailleurs, les symptômes de la dépression.
Non.
Selon une étude de 2010 publiée dans Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, les personnes dépressives ont plus de mal à réaliser des tâches cognitives que celles en bonne santé. Traiter la dépression peut améliorer la fonction cognitive, déclare Aaron Newman. C'est pas n'importe qui, c'est un spécialiste en neurosciences et professeur à l'Université Dalhousie à Halifax. Autre conseil, très judicieux, maîtrisez votre stress,
oui,
comme celle de l'itinérante là, de tout à l'heure. Là.
Tout à fait.
Quand nous sommes anxieux, nous sécrétons du cortisol, une hormone qui envahit le cerveau et se lie aux récepteurs de neurones.
Ah, c'est ça.
Oui.
C'est le cortisol.
Cortisol. Entraînant un passage accru de calcium à travers leurs membranes. Les neurones surchargés en calcium réagissent trop vite et cet excès les détruit. Alors, vous ne voulez pas détruire vos neurones.
Oh.
Attention au stress.
Oh, oh, oh.
Autre façon, autre conseil, jouer. Selon une étude de l'Institut berlinois Max Planck de développement humain et de deux autres instituts allemands, le volume cérébral des participants jouant régulièrement à Super Mario 64, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Là.
Ah, ben là, il va falloir y jouer pour savoir.
A augmenté dans les zones contrôlant la mémoire et le raisonnement spatial.
Mais il faut jouer juste à Super Mario
64?
C'est ça 64?
Que je me demandais, là. Le texte ne le précise pas. Autre conseil, bouger. Une heure de musculation deux fois par semaine permet de ralentir la progression de la déficience cognitive légère.
Ça.
Oui.
Ça,
maintenant,
je suis
ici,
d'accord.
C'est le meilleur des conseils. Le meilleur des conseils qu'on peut vous donner, c'est buvez du café.
Ben, voyons donc.
Il contient du polyphénol,
ah,
des composés antioxydants susceptibles de protéger l'hippocampe et le cortex, zone clé pour la mémoire. De 3 à 5 tasses par jour est la dose idéale. Mais en même temps, évitez le tabac.
Ah bon?
Voilà, c'est café puis le tabac, souvent ça va ensemble, mais évitez le tabac.
C'est oui, c'était marqué à Paris, café, le cortex... tabac, café.
Le cortex, la couche externe granuleuse du cerveau, s'amincit naturellement avec l'âge, mais fumer accélère ce phénomène responsable de la détérioration cognitive.
Ah.
Mais là, il y a des conseils qui sont assez surprenants.
Allez-y.
Lavez-vous les dents.
Ah ben oui. C'est sûr, c'est sûr.
Une étude parue dans le journal de la Société américaine de gériatrie a démontré que les sujets n'ayant plus aucune dent naturelle ont obtenu des résultats 10 fois inférieurs à des tests de mémoire.
Non.
Les chercheurs ignorent encore pourquoi.
Ah, moi aussi d'ailleurs.
Autre pas conseil.
Juste les chercheurs, moi aussi.
Surveillez votre audition. Ouais, parce que...
Oui.
En 2013, une étude de l'Université Johns Hopkins a conclu que le déclin cognitif était de 30 à 40 fois plus rapide chez les sujets atteints d'une déficience auditive.
Okay.
Traiter ce problème peut améliorer les capacités cognitives.
Ah bon?
Ne comptez pas sur les super-aliments, par exemple.
Non?
Non. S'il est démontré que le curcuma brise les plaques séniles du cerveau,
oui.
ça c'est associé à la maladie d'Alzheimer,
oui.
Il n'est pas un remède miracle. L'effet bénéfique vient de composés chimiques, pas de l'aliment lui-même, explique Aaron Newman. Et il est impossible d'obtenir dans l'alimentation une concentration de ces substances aussi élevée que lors de tests en laboratoire.
Même pas l'huile de coco?
Non, ben peut-être, là, mais je ne sais pas. Cultivez vos amitiés. Avant-dernier conseil.
Les amitiés,
oui,
c'est bon.
10 minutes d'interaction sociale par jour suffisent à améliorer la performance cognitive. Et le dernier, le plus beau des conseils, soyez zen. Méditer une demi-heure par jour pendant 8 semaines peut générer de la matière grise dans l'hippocampe et ainsi améliorer la mémoire et l'apprentissage. Alors, on en apprend des choses hein, dans la Reader's Digest.
Écoutez, je trouve ça très intéressant.
Bon.
Surtout les dents, là, j'adore ça.
Maintenant, quelques nouvelles du monde de la médecine, si on veut. Une petite nouvelle, si je peux tomber dessus. Là, c'est à la page 25, d'après la note que j'ai prise ici.
Oui.
Alors, on dit ceci. Le sauna est bon pour le cœur. Alors, une autre étude qui est un peu... Bon, enfin, une bonne suée est salutaire. Une étude finlandaise a suivi 2315 hommes âgés de 40 à 50 ans pendant plus de 20 ans et a découvert que ceux qui se rendaient au sauna de 4 à 7 fois par semaine avaient moitié moins de risque de mourir de cardiopathie coronarienne que les hommes qui ne s'y rendaient qu'une fois par semaine. En fait, les amateurs de sauna étaient moins susceptibles de mourir. Je ne dis pas s'ils pensent qu'ils vont mourir un jour, mais moins susceptibles de mourir, quelle que soit la cause, au cours de la période à l'étude.
Ben quand même, hein? Blanc que blanc, je l'ai essayé.
Blanc.
Ouais, un truc pour redonner leur blancheur, c'est l'été, là. À vos meubles de jardin en PVC qui sont devenus gris ou en résine, frottez-les avec une éponge humide recouverte de bicarbonate de soude.
Pas de la noix de coco? Pas de l'huile de coco?
Mélangez pas tout, là, avec vos neurones, vous. Laissez le produit agir quelques minutes, puis rincer à grande eau, illustré avec un chiffon doux. Et si des taches grises persistent, répétez l'opération avec une solution faite d'une quantité égale de vinaigre, de jus de citron et de bicarbonate. Et utilisez une vieille brosse à dents pour vos dents. Pas pour vos dents. Pour nettoyer tous les recoins. C'est bon?
Bon, c'est bon. Maintenant, l'aventure qui est arrivée à une enseignante en art, Maria Delos. Elle avait oublié l'existence d'une valise qu'elle avait perdue lors d'un vol à la fin des années 1990. Mais en 2014, elle reçut un appel de l'aéroport lui affirmant qu'on l'avait retrouvée, sa valise. Personne ne pouvait expliquer où avaient reposé les affaires de Maria ces 15 dernières années, mais il devait s'agir d'un lieu sec. Ses tubes de peinture étaient en parfaite condition. Et elle les utilise aujourd'hui dans ses cours. Faut jamais perdre espoir.
Hey, c'est bon, ça. Alors, antistress félin. Alors, pour les neurones, l'antistress, c'est bon. Inutile de dépenser une fortune pour apaiser votre chat nerveux. Non. J'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai eu des appels cette semaine. On m'a dit, reparlez-en. Offrez-lui simplement une petite boîte de carton. Il s'y sentira instinctivement en sécurité. Puis on peut faire la même chose pour soi, hein? Car elle lui permet de se cacher des prédateurs potentiels ou de tendre une embuscade à ses proies imaginaires. Et cet espace clos conserve aussi la chaleur, ce qui permet à Minet d'atteindre les 30 ou 36 degrés Celsius, auquel il se sent le plus à son aise pour pratiquer son activité favorite, dormir pour les neurones.
C'est ça, c'est bon pour les synapses, c'est tout.
Oui.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Amateur de hot dog, bonjour.
Bon.
Nous sommes à l'épicerie et nous avons un test pour vous, saucisse à hot dog.
Ah.
Par Catherine Crépeau et Clémence Lamarche. Vedette de barbecue, les saucisses à hot dog s'avèrent plus que décevantes sur le plan nutritif. On s'en doutait. Seuls quelques produits végétariens se démarquent. Ah, ben, au moins.
Ah, ben oui.
Alors, écoutez bien. Que cachent vos saucisses?
Ah, c'est la question.
C'est pas un secret. Les saucisses sont faites des restes de viande de porc, de poulet, des restes, hein, de viande de porc, de poulet ou de volaille. Mais saviez-vous que ces restes peuvent inclure le cœur, la langue, l'œsophage et le sang de l'animal? Vous prévoyez manger un bon hot dog pour dîner? Par contre, il est interdit d'y ajouter les yeux, le groin, les organes génitaux et les oreilles. Il est interdit, c'est dommage. Vous trouverez dans la plupart des saucisses, y compris les produits sans viande, des agents de remplissage d'origine végétale comme de l'amidon de maïs.
Pas du brin de scie.
Du gluten de blé, de la farine, des substances modifiées du lait ainsi que des sels de phosphate. Ces ingrédients qui donnent une texture plus lisse au mélange favorisent également la rétention d'eau du produit, donc sa tendreté. Au final, l'enrichissement en eau se traduit par une baisse du taux de protéines, tandis que certains sels en augmentent le taux de sodium. Les saucisses contiennent aussi des colorants, des épices et des assaisonnements, ainsi que de nombreux additifs. Et soulignons les omniprésentes nitrites qui figurent dans la liste d'ingrédients des 42 produits sur 57. Leurs principaux avantages: ils ralentissent la prolifération des bactéries et donnent une couleur rosée au mélange.
Vous me fendez le cœur.
Attention toutefois, pendant la digestion, ils pourraient se transformer en nitrosamine, un composé considéré comme cancérigène. Vous devriez donc en consommer le moins possible en Provence et accompagner votre hot dog de légumes et de fruits. Par exemple, une salade de fruits contenant des composés antioxydants et de la vitamine C. Avez-vous déjà mangé de fruits dans un hot dog, vous? Des substances qui peuvent réduire ou empêcher la transformation de nitrites. Hey, c'est pas drôle. Le pire des produits sur le marché, voulez-vous le savoir?
Oui.
Prenez ça en note. Les saucisses barbecue de La Fleur.
Hein? La Fleur?
La Fleur. Les saucisses barbecue. Une portion fournie 1380 mg de sodium, soit 60 % de l'apport maximal tolérable quotidien pour un adulte, comme établi par Santé Canada. Et les matières grasses totales représentent 32 % du poids de ce produit qui contiennent 9 g de gras saturé par portion. Un adulte ne devrait pas en consommer plus de 21 g par jour. En outre, le rapport en protéines, 14 g par portion, ne suffira peut-être pas à en faire un repas soutenant. Vous risquez donc d'en manger plus, voyez-vous? Alors, on va y aller avec un bon produit. C'est beau? C'est Yves Veggie Cuisine Tofu Dogs. Pour les chiens, ça? Tofu Dogs?
Non, mais c'est Hot Dog.
Ah, oui, Hot Dog. Oh, Serge, franchement, arrive en ville. Mes neurones. Alors, portion 2 saucisses, calories 120, matière grasse 4 % du poids, gras saturé 0, sodium 480, protéines 18 g, ça c'est pour 2 saucisses, le prix 1,32 $ la portion, c'est cher. Yves Veggie Cuisine, c'est bon?
On ne dit pas si c'est bon ou c'est pas bon.
Puis il y a les jumbo aussi, Une saucisse de 76 grammes, c'est bon aussi. Yves Veggie Cuisine Jumbo Veggie, c'est un bon choix. L'autre bon choix aussi, c'est Tofurki. T'es tof comme un tofu, hein? Tofurki. K-Y. Hot dog géant sans viande. Portion, une saucisse. Alors, c'est bon, celle-là est bonne. Okay? Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, à part de ça? La méthodologie qu'ils ont utilisée pour ça, ils ont analysé la valeur nutritive de 57 variétés de saucisses fumées vendues dans les supermarchés et magasins d'aliments naturels. Les critères ont été fixés en collaboration avec extenso.org et les bons choix fournissent 15 g ou plus de protéines et 600 mg ou moins de sodium par portion de deux saucisses de moins de 57 g chacune et d'une saucisse de 57 g ou plus. Et les lipides totaux ne doivent pas dépasser plus de 17 % du poids de la saucisse. Nous n'avons pas établi de critères de meilleur choix. Prix relevés et ont été en février 2015. Alors, à noter que sur les emballages, la mention barbecue annonce de mauvaises nouvelles au chapitre du sel. Et en effet, les trois seuls produits qui l'affichent, le Marc Lafleur, Lester et High Grade, sont les plus salés sur le marché. Une seule portion fournit plus de la moitié de l'AMT quotidien.
Alors, c'est dans quel magazine, ça?
Ça, c'est dans le Protégez-vous.
Protégez-vous,
c'est
oui,
un article qui est écrit par Catherine Crépeau et Clémence Lamarche. Je ne sais pas si elles ont mangé tous ces hot dogs, les pauvres. Thank you.
les cyclistes vont avoir du mal à suivre ce rythme-là.
C'est très rapide,
la musique qu'on vient d'entendre.
Ah oui, oui.
Moi, j'ai le texte vers lequel je me tourne maintenant, ça s'appelle « La route verte à la croisée des chemins ». C'est par Gary Lawrence, c'est dans l'actualité du mois de juillet.
Mm-hmm.
Nous n'en sommes pas vraiment conscients, peut-être, mais le Québec compte 4 millions de cyclistes. Il y en a 2 sur 3 ici, non? Qui parcourent près de 2 milliards de kilomètres par année. Bien sûr, le vélo se pratique en ville, à la campagne, mais 1,2 million d'adeptes empruntent chaque année la route verte.
Ah!
Qu'est-ce que c'est que la route verte? Inspirée de véloroutes états-uniennes et européennes, la route verte a été créée il y a 20 ans avec le concours de l'État québécois, de bénévoles et de partenaires régionaux. Elle forme aujourd'hui un réseau cyclable de 5037 km, composé de pistes aménagées en marge du réseau routier, d'accotements asphaltés et de routes secondaires. Elle relie presque sans interruption 16 régions en sillonnant 393 municipalités et des pans entiers d'un Québec parfois méconnu. C'est la meilleure façon de voyager au Québec. Le réseau longe des rivières, des lacs, des chutes et traverse des paysages auxquels on n'a pas accès autrement. Il passe aussi par des villages reculés et des routes rurales oubliées, le tout gratuitement, dit Stéphane Lapointe, auteur de pistescyclables.ca. La route a d'ailleurs reçu de nombreux éloges, notamment de la National Geographic Society, qui la juge parmi les plus belles véloroutes au monde. Mais il a fallu du temps et des efforts pour la mettre en place. En 1995, certaines régions n'aimaient pas l'idée de se connecter entre elles et des fermiers craignaient de se faire voler leur maïs par les cyclistes, raconte un de ses fondateurs, Jean-François Pronovost. Peu à peu, toutes les régions ont emboîté le pas. Dans une certaine mesure, la route verte a créé un Québec plus étroitement lié qu'il ne l'était par les routes parce que ses liens sont plus humains, dit Louis Carpentier, directeur du développement de la route verte. Elle a même donné naissance à des modèles de concertation régionale uniques en leur genre, autour du lac Saint-Jean, 15 municipalités et une communauté montagnaise décident ensemble, chaque année, qui paiera quoi pour l'entretien de la véloroute des Bleuets, explique Nicolas Lacroix, jusqu'à tout récemment directeur de cette boucle de 256 km sur laquelle plus de 240 000 cyclistes ont circulé en 2014 et généré des retombées qui atteindraient 10 millions de dollars. Selon une étude de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal, la route verte contribue à prolonger la saison touristique, les cyclotouristes voyageant du printemps à l'automne. La majorité de ces cyclistes est instruite, le tiers ont fait des études universitaires et elles voyagent et dépensent plus que la moyenne des touristes au Québec. Leurs dépenses vont surtout à l'hébergement et à la restauration pour le bonheur des commerçants, bien sûr. Avant même que la route verte soit implantée en Montérégie, Françoise Boutin, propriétaire de l'auberge Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu, pensait vélo. Elle a contribué à l'aménagement d'un lien cyclable entre sa ville et Chambly. Depuis, elle a ajouté 29 suites à son établissement et les cyclistes forment 40 % de sa clientèle. Je mets à leur disposition un abri couvert et verrouillé pour 56 vélos. Je propose des circuits avec transport de bagages et j'ai créé ma propre application pour téléphone intelligent, souligne la femme d'affaires, dont l'auberge est certifiée Bienvenue Cycliste. C'est un label adopté par Vélo Québec en 2005. Aujourd'hui, 500 établissements, hôtels, gîtes, campings, offrent des services adaptés aux cyclotouristes. La route verte a entraîné un mouvement de réaménagement des villes et de récupération d'espaces abandonnés. À Lévis, Gilles Lehouillé, alors conseiller municipal et aujourd'hui maire, a eu l'idée de transformer une friche industrielle en un verdoyant couloir cyclable, le parcours des Anses. La revitalisation y a été exceptionnelle, fait-il remarquer. De jeunes familles se sont établies autour et la valeur des propriétés a augmenté de 214 % de 2003 à 2015. D'abord conçues à des fins récréatives, d'autres pistes cyclables sont devenues des voies de déplacement importantes, comme le parc linéaire des Bois-Francs dans le centre du Québec. Au début, on n'y voyait des cyclistes que la fin de semaine. Maintenant, elle est sillonnée dès le lundi matin par des travailleurs ou des étudiants, note Louis Carpentier de la Route verte. Sans piste, les gens ne prendraient pas autant leur vélo car les routes sont trop fréquentées dans les environs. Même constat pour le parc linéaire, le petit train du Nord, dans les Laurentides, où 70 % du million de passages annuels sont attribués à la circulation locale. La route verte a aussi contribué à protéger l'environnement. La piste du Petit Témis a créé une bande de protection aux abords du lac Témiscouata, une importante source d'eau potable, dit le maire de Déjoly, Normand Morin, instigateur de cette piste cyclable. Sans elle, le parc national du Témiscouata n'aurait pas vu le jour en 2014. Mais tout n'est pas rose dans le monde, dans ce monde vert. Il manque encore 5 % du tracé prévu et la signalisation reste déficiente par endroits. Mais le plus grand défi pour les responsables de la route verte, c'est l'entretien de cette route. Une fois créé, le réseau dure une vingtaine d'années, mais ensuite, il faut en faire la réfection et le gouvernement du Québec vient de réduire les subventions qu'il versait pour entretenir, pour la réfection de la route verte, de sorte qu'on se tourne vers d'autres solutions. Il y a des forums qui sont créés pour essayer de conserver et d'améliorer la route verte à la croisée des chemins. C'est dans l'actualité du mois de juillet.
Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant leur chanson d'oiseaux. Wow, wow, wow. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Les enfants viennent en chaloupe, ils ont pêché trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil. Les mouches à feu font des folies, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins. Plus tard on ira sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai.
Ah, c'est l'été, oui, la crème glacée. Alors, c'est terminé pour les hot dogs. On va tomber dans la crème glacée. Et c'est Martin Dion qui, avec Protégez-vous, ont testé les sorbetières. Confectionner votre propre crème glacée vous tente? Selon le temps et l'énergie que vous comptez y consacrer, vous trouverez des bons choix à 100 $ et des meilleurs choix, bien sûr, à plus de 400 $. Oh là là. et la méthodologie qui a été utilisée en collaboration avec l'Académie culinaire de Montréal. On a testé 10 sorbetières, 3 modèles à mode actif, 5 à mode passif et 2 accessoires pour batteurs sur socle, vendus entre 50 et 480 $, qui sont des prix qui ont été relevés en février 2015. On a préparé 3 recettes simples, une crème glacée, un sorbet et un yogourt glacé. Et on a évalué la performance des appareils, le goût, l'apparence, la texture et la consistance des préparations obtenues, la facilité d'utilisation des sorbetières ainsi que leur qualité de construction. Et dans la catégorie des petits électroménagers de cuisine, la sorbetière est l'un des appareils les moins polyvalents. Sa seule fonction, fabriquer du sorbet, de la crème glacée ou du yogourt glacé. Et en préparant ces produits vous-même, vous pouvez cependant créer vos propres combinaisons de saveurs et choisir la qualité de vos ingrédients. Il existe principalement deux types de sorbetières, à mode passif et à mode actif. Les modèles à mode passif sont dotés d'un bol à double paroi que vous devez placer au congélateur au moins 15 heures avant de commencer la préparation. Ah bon. Et le froid accumulé dans la cuve permet de figer votre mélange. Le principal avantage de ce type d'appareil, son prix. Pour 100 $, on a trouvé un bon choix qui pourrait très bien convenir si vous tentez l'expérience pour la première fois. Vous vous y connaissez en matière de préparation de crème glacée et vous comptez utiliser souvent votre sorbetière. Il vaut sans doute la peine d'y mettre le prix. Et les meilleurs appareils à mode actif, également appelés turbines à glace, rien de moins, sont aussi les plus chers. Ils sont vendus entre 410 et 480 $. Et ces sorbetières comprennent un compresseur qui refroidit et fige votre préparation sans que vous ayez à placer la cuve au congélateur plusieurs heures avant d'utiliser. Et cet élément constitue un net avantage si vous décidez de préparer de la crème glacée à la dernière minute. Ah, on peut faire ça à la dernière minute. Alors, on a trouvé aussi et testé des accessoires qui permettent de transformer un batteur sur socle en sorbetière. Que valent ces produits de marque Breville et KitchenAid? Alors, que valent-ils? Je tourne la page. De batteur sur socle à sorbetière, si vous possédez le BEM 800 XL de Breville ou encore l'Artisan de KitchenAid, les deux meilleurs batteurs sur socle qu'on a testés en janvier 2015, vous pouvez vous procurer un accessoire qui transforme votre appareil en sorbetière. Ce type d'outil est-il efficace? Les deux qu'on a mis à l'essai donnent des résultats comparables à notre bon choix de sorbetière, la pure indulgence de cuisinard, un modèle à mode passif. Le Breville produit une crème glacée en 27 minutes seulement, ce qui n'est pas le cas du KitchenAid qui demande 43 minutes pour réaliser la même recette. Si vous pensez vous procurer prochainement un batteur sur socle, attendez-vous à débourser environ 500 $ pour un ensemble de qualité comprenant le batteur comme tel et l'accessoire pour sorbetière, manuel ou automatique. Et toutes les sorbetières, un peu comme des autos, on dirait, à mode actif, sont automatiques. Il suffit de brancher l'appareil, d'y mettre votre préparation et d'attendre que la machine fasse son travail. C'est fin, ça. La plupart des modèles à mode passif sont également automatiques, à l'exception des appareils de marque CuisiPro et NordPro qu'on a testés. Et ces deux produits exigent qu'on tourne nous-mêmes la manivelle jusqu'à ce que la préparation acquiert la consistance d'une crème glacée molle. Durée d'opération de 30 à 40 minutes environ. On tourne la manivelle pendant 30 à 40 minutes. Pas vrai, ça. Par ailleurs, ces appareils ont... Ah, mais c'est bon pour les neurones.
C'est ça.
C'est de l'exercice physique en
c'est,
même temps.
C'est comme bon faire ça. Fonctionner la baraque pour faire du beurre.
Voilà. Les préparations étaient moins uniformes et plus dures que celles concoctées avec les modèles automatiques. Alors, on est mieux avec les automatiques, finalement. Le temps de travail... Pour obtenir 600 ml de crème glacée, votre préparation devra passer environ 35 minutes dans la sorbetière. Les modèles les plus rapides des deux appareils de marque Cuisinart, ainsi que la véritable machine à glace italienne de DeLonghi, font le travail en 27 ou 28 minutes. Les moins performants requièrent près de 40 minutes. Et certains modèles, tels le Gelateria de Cuisinart, hein, Gelato, Gelateria, s'arrêtent automatiquement dès que la consistance optimale est atteinte. Et la capacité? Afin de vous assurer les meilleurs résultats possibles, les fabricants recommandent de toujours respecter le volume de préparation indiqué, c'est sûr. Choisissez donc une sorbetière offrant une capacité qui correspond à la quantité de mélange que vous prévoyez préparer le plus souvent. Comptez qu'un litre de sorbet, de yogourt glacé ou de crème glacée équivaut à environ 4 à 8 portions. Bon, alors voilà. Ça vous donne une idée?
Ben oui. Hein? Et il y en a, c'est très cher.
Alors, l'Abreville est à 480, la DeLonghi 410 et la Cuisinart à 100 $. La pure indigence, c'est un bon choix, mais c'est à mode passif. Il faut que vous mettiez ça au congélateur 15 heures avant. Ça vous va? Oui. Il y a l'Abreville qui est un bon choix à 100 $ aussi, qui est un modèle passif.
C'est toujours dans Protégez-vous, ça. Hein?
Toujours dans Protégez-vous.
Alors, on va commencer par plaindre le pauvre locataire d'un immeuble résidentiel. On ne dit pas dans quelle ville que c'est, mais voici ce qu'il peut lire sur un écriteau. Les poubelles doivent être sorties les lundis et jeudis soirs, à moins que le mardi ou le vendredi ne soit férié. Le recyclage doit être sorti le mardi soir, à moins que le mercredi ne soit férié. Dans le cas de jours fériés, mentionnés plus haut, le ramassage a généralement lieu le samedi. Cependant, l'entreprise d'éboueage X devra être contactée par téléphone pour vérifier quel jour le ramassage aura lieu. Toutefois, il arrive qu'ils indiquent le mauvais jour. Dans ce cas, attendez jusqu'au samedi et sortez à nouveau vos poubelles. Alors, je ne sais pas qui a compris quelque chose.
Hein? Pourriez-vous recommencer, s'il vous plaît? Non, vous voulez pas recommencer?
Ben non.
OK. Alors, écoutez, l'étiquetage, c'est payant. Vous organisez une vente de garage, n'oubliez pas de bien étiqueter votre marchandise. L'affichage des prix sur tous les articles plaît aux acheteurs timides et empêche les erreurs de perception quant à leur valeur. En plus, vous risquez moins de perdre des ventes si vous êtes trop occupé pour répondre à tous les clients. Munissez-vous aussi d'un crayon rouge.
Ah oui?
Oui. Offrir des prix à partir de la mi-journée vous permettra de remiser moins d'objets en soirée.
Ben,
c'est beau.
Ah, je vous parle maintenant de quelque chose qui est une tragédie de notre époque, la Méditerranée, le péril bleu. Depuis janvier,
non.
1600 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la mer Méditerranée pour atteindre les côtes de l'Europe. Un sommet. Poussé par l'insécurité et les conflits armés, Syriens, Irakiens, Libyens, entre autres, préfèrent courir le risque de mourir en mer plutôt que de mourir dans leur pays, dit Elisabeth Vallet, spécialiste des frontières et directrice scientifique à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. 28 000, c'est le nombre de personnes qui seraient mortes dans la Méditerranée depuis 2000. 200%, c'est la hausse que vient d'accorder l'Union européenne au budget de l'opération Triton, qui patrouille les eaux territoriales européennes. Ça, c'est pas gay.
Et puis moi, j'ai un aidant artificiel ici. Imaginez un robot qui prend soin des aînés en perte d'autonomie et des gens qui ont besoin d'aide à domicile. Les chercheurs du laboratoire de robotique intelligente de l'Université de Sherbrooke, l'INT-ROLAB, y travaillent. À terme, le robot compagnon pourra déplacer des objets, réagir à la voix de son propriétaire, interagir physiquement avec lui et même décoder ses émotions. Mais il faudra être patient. Les scientifiques estiment que leur automate ne sera pas totalement au point avant au moins une décennie.
Une décennie.
On a le temps d'être mort.
Ouais. On... Médicaments,
oui.
Vilaine enflure.
Hey,
c'est parce qu'il y a un lien. Les Québécois paient trop cher leurs médicaments, a révélé le commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Robert Sallois, dans un rapport déposé récemment à l'Assemblée nationale. Le commissaire propose 10 recommandations à adopter, sans quoi c'est tout le système de santé qui pourrait être en péril. Tiens, coût annuel des médicaments,
$927 par habitant au Québec, alors que ça ne coûte que $795 par habitant dans l'ensemble du Canada.
Bon, ouais. On va finir avec une belle nouvelle.
Oui.
13 200 ménages québécois recevront cet été des paniers bio du réseau des fermiers de famille d'Équiterre. Tous les paniers contiennent de 6 à 12 variétés de légumes et de fruits et nourrissent en moyenne 3 personnes.
Uh-huh.
Et puis, il y a des applis douteuses, en fait, attention. Les nouveaux parents, là, méfiez-vous des applications destinées à documenter les boires de votre nourrisson. Mm-hmm. Ces outils pour tablettes et téléphones intelligents ne favorisent pas le succès de l'allaitement. En effet, leur alarme qui sonne à intervalles fixes ne respecte pas le rythme naturel d'alimentation de bébé. Et comme plusieurs applications ont des visées publicitaires, elles font la promotion de préparations commerciales et de tétines artificielles qui peuvent nuire à la prise du sein.
Bon.
Bon.
Alors, en ce 6 juillet, oui, un petit mot, une note sérieuse, pensons à Lac-Mégantic.
Oui.
Alors, aujourd'hui, 6 juillet, c'est le